Salut à tous, vous écoutez l'épisode numéro 8 du podcast Le Safety, votre podcast NFL, de retour après des très longues vacances d'été avec moi, tout en joie vu que ces Celtics au basket ont remporté leur match face à Toronto et sont maintenant en finale de conf de la NBA en playoff. C'est Alan, comment ça va Alan?
Je suis exténué Ben, exténué de ces deux semaines qui ont pompé mon énergie et mes nuits, mais bon, ça fait plaisir de la victoire est là et puis surtout la NFL est de retour, donc c'est pas la NFL de d'habitude, mais c'est quand même de la NFL.
C'est ça, c'est un bon mot pour commencer, pas la NFL de d'habitude, mais le retour de la NFL quand même, et peut-être pour une fois, je tease un peu la suite, peut-être que pour une fois, et ça n'a pas dû arriver souvent dans ta vie, les Celtics auront plus de succès que les Patriots sur une saison.
Bah c'est ça n'a jamais arrivé depuis que je regarde sérieusement, on va dire.
Eh ben justement, on va en parler de ces Patriots et de beaucoup de choses dans cet épisode de preview. 12 questions pour une saison NFL, une saison un peu particulière, Alan l'a dit, mais je pense qu'il y a un peu, on avait tous un peu d'excitation en voyant ce Texans Chiefs de la nuit de jeudi à vendredi. On enregistre entre ce match du jeudi et les matchs de dimanche. Ce qu'on peut vous dire pour commencer, c'est d'abord notre dispositif pendant cette saison. Parce que oui, autant pendant l'été, on peut se permettre de pas être là pendant deux mois. Pendant la saison, on va être un peu plus sérieux. Alors, il y a assez de podcasts, il y a assez d'offres de podcasts américains ou français hein, pour faire des résumés toutes les semaines de ce qui s'est passé. Nous, on va pas vraiment être sur le créneau là avec Alan. Ce qu'on a décidé de faire, c'est toutes les deux semaines ou les trois semaines, au pire des cas, on va venir pour une émission, un format long d'une heure environ sur un sujet précis, sur par exemple une équipe. On sait pas si voilà une équipe fait un très bon début de saison, et ben on va analyser, décortiquer les matchs et voir pourquoi elle fait ce bon début de saison, est-ce que ça peut continuer, etc. Alan, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, mais voilà, l'idée c'est plutôt d'être sur du format un peu plus long, même si on va pas s'empêcher de parler un peu d'actualité, on veut vraiment plutôt être dans l'analyse un peu plus profonde.
Ouais, franchement, t'as tout dit, j'ai rien à rajouter, même voilà, si on demandera, on pourra peut-être demander à des auditeurs s'ils veulent qu'on analyse certains matchs, tu vois, plus que d'autres, parce qu'il faut toujours avoir un peu de recul, donc pour pouvoir revoir le match à tête reposée, analyser certaines choses, et voilà, peut-être voilà, parler de choses plus tactiques, plus comme tu l'as dit, de pourquoi une telle équipe a de la réussite, a du succès dans une des phases du jeu sur plusieurs semaines. C'est des trucs qu'on peut plus faire en prenant un peu plus de hauteur et en enregistrant pas voilà tous les lundis par exemple. Donc ça peut être un peu différent, mais ça va être le processus qu'on a choisi, tu l'as dit.
Voilà, tout simplement. Et alors là, on va être honnête, pour l'émission de dans deux semaines, on n'a même pas encore prévu de sujet exactement. On va vraiment s'adapter. Je sais pas si une équipe, par exemple, typiquement, je pense que sans favoritisme, l'année dernière, on aurait parlé des Ravens au bout de deux semaines, probablement. Probablement, on aurait fait un crossover Ravens Patriots. Enfin voilà, on peut aussi faire des crossovers, hein. Par exemple deux équipes qui marchent, une équipe qui marche, une équipe qui marche pas, elles se rencontrent, on peut en parler. Enfin bref, vous voyez un peu, je pense un peu le ton de ce podcast. Mais aujourd'hui, avant d'entrer dans l'analyse de ce type, on a une preview à faire. Pas de jingle, de pause, on enchaîne direct. 12 questions pour une saison NFL. Alors là encore, on n'a pas décidé de faire une preview équipe par équipe. On va poser, selon nous, 12 questions qui se posent automatiquement quand on va parler de cette saison 2020 un peu spéciale de NFL. Et la première, Alan, est assez simple. Les Buccaneers, est-ce qu'on y croit? Les Buccaneers, ils ont fait l'actualité cette intersaison. Alors, si vous vivez dans une grotte, alors mauvaise nouvelle déjà, il y a une pandémie qui nous pose quelques problèmes. Et aussi, Tom Brady a donc quitté les Patriots d'Alan pour rejoindre les Buccaneers. Du coup, grosse hype de l'intersaison, Alan, tout simplement. Les Buccaneers, est-ce qu'on y croit vraiment?
Je suis chiant, mais on y croit pourquoi?
C'était la question, voilà. J'ai regardé justement Vegas, on les met comme une équipe qui peut potentiellement aller au Super Bowl, mais on les voit comme une équipe qui peut faire du bruit en playoff.
On y croit pour les playoffs, oui. Déjà, ça sera bien parce qu'ils y sont pas allés depuis 2007, en playoff. Je crois que c'est une des séries les plus longues hein, de playoff. Franchement, 13 ans, c'est en NFL, c'est où il y a...
Maintenant que les Bills y sont retournés, ouais. Ouais, les Raiders doivent être pas loin.
Les Raiders, ils sont allés avec Connor Cook,
Ah oui.
Fameux match du samedi. Le
grand moment. Oui. Avec contre les Texans.
Exactement. Le fameux match de samedi 22h30 avec les Texans. Chaque année, il est génial celui-là. Bref, moi j'y crois pour aller en playoff, oui. Et potentiellement pour voilà faire faire quelque chose. Alors bien sûr, c'est une équipe qui a fait la une, comme tu l'as dit. Ils ont signé Brady. Grâce à la ceinture de Brady, parce que sans Brady, ils font pas Gronk. Donc il y a Gronk aussi, mais quel Gronk on a, un ancien compétition. Il arrive voilà avec des... Il y a déjà plusieurs tight ends dans l'équipe. Ils ont aussi voilà pris Leonard Fournette et puis LeSean McCoy dans le backfield. Donc c'est vrai que si tu joues sur Madden avec cette équipe en attaque, c'est létal. Mais après, il va falloir que ça se mette en place en fait. Moi, j'aime bien. Je vais juste dire une chose. Après, je te laisserai parler. J'entends beaucoup. Oui, il va falloir que Brady s'adapte à Arians. Non. C'est Brady il vient et il va mettre en place son système, je pense. Il a les playmakers, il va leur donner la balle vite. Ça va être beaucoup de des jeux comme ça. Je pense que Bruce Arians sera assez intelligent pour ça. On va avoir des packages, des schémas que Brady utilisait déjà aux Patriots et compagnie, surtout qu'avec l'intersaison un petit peu même hyper diminué, je pense pas que Brady aura pu apprendre tout le... Même si bon, c'est un malade mental, hein, mais il sera peut-être pas à l'aise complet dans le schéma de Bruce Arians et de Byron Effut. Donc je pense qu'il va avoir un mix des deux, mais je vois pas. Quand on dit ouais, est-ce que Brady a encore le bras pour jouer les schémas avec beaucoup de passes longues de Darian, je pense que ça sera pas trop comme ça. Après, je peux me tromper, mais non, j'y crois. Et puis et ouais, j'y crois pour les playoffs, facile.
Alors moi, depuis qu'on a parlé de... Parce qu'on avait fait un peu des points d'intersaison sur la NFC et la AFC, j'avais beaucoup, un peu pour les Buccaneers, parlé de l'attaque, pardon. Je me grille déjà, lapsus révélateur. Là, c'est plutôt... Alors, j'estime, comme tu l'as dit, il y aurait une adaptation dans les schémas d'Ariane, s'il va pas lui faire balancer des bombes à 30 yards à chaque fois, enfin c'est pas possible. J'ai déjà bien aimé le recrutement agressif au niveau du backfield offensif. En gros, on aligne les running backs et on va tous les essayer, et il y en a un qui va marcher, potentiellement, les Leonard Fournette, les Sean McCoy, etc. Ce que j'ai trouvé qui me pose question, c'est surtout leur backfield défensif, qui est extrêmement jeune, probablement le plus jeune de la NFL. On a beaucoup parlé de la bonne défense des Buccaneers l'année dernière, mais en réalité, c'est leur défense au sol qui était intraitable, la meilleure de la NFL, mais leur backfield défensif pose vraiment question. Alors, il y a Antoine Winfield Jr., le rookie, dont on parle beaucoup dans les training camps des Buccaneers cette intersaison, mais derrière, un haut choix de draft d'il y a quelques années, Vernon Hargreaves, a été coupé en novembre dernier, et derrière, c'est assez faible. Enfin, Carlton Davis, Sean Murphy, enfin c'est très jeune, c'est pas le plus gros backfield défensif. Ailleurs, sur la deuxième partie de la saison, il y a eu de la progression, mais clairement c'est pas un hasard si les Buccaneers c'était la deuxième équipe qui blitzait le plus en NFL l'année dernière, sur plus de 40% de leur attaque, leur jeu défensif pardon. C'est, je pense clairement que on avait pas envie de laisser ce backfield défensif être cisaillé. Maintenant, quand ils vont être potentiellement en playoff ou dans des grosses affrontements de saison régulière, j'ai quelques doutes.
Mmh. Ouais, après c'est la philosophie de Todd Bowles, hein. Très agressif, beaucoup de blitz, ça peut protéger tes corners, mais en même temps, au bout d'un moment, t'as besoin de, en NFL aujourd'hui, de corners qui peuvent jouer en homme, voilà, tout simplement, hein. Surtout dans la division où ils sont. Quand tu tapes Julio Jones et Michael Thomas, même Emmanuel Sanders maintenant. Mais ouais, franchement, je suis d'accord, c'est le point faible. Tu vois, quand je parlais un peu de la défense, franchement, le front seven est solide, hein, parce que la ligne est bonne et puis les linebackers sont rapides, vifs, ils peuvent jouer sur trois tentatives. C'est la progression interne des corners qui va faire si cette défense, voilà. Et potentiellement celle qui peut aller amener en playoff les Buccaneers. Après, le calendrier est relou, je dirais. Il est difficile. Bah, déjà, tu joues deux fois les Saints, tu joues Kansas City. Bon, tu joues les Packers. Ça, bon, on reparlera des Packers. Mais ils ont quand même des matchs qu'ils doivent gagner. Et, il va falloir qu'ils battent les Carolina, Atlanta dans la division, qu'ils fassent pas trop d'erreurs. Et puis, ils pourraient se placer. Ouais. Donc, je pense que... Moi, j'y crois pour aller en playoff. peut-être pas gagner la division, mais aller en playoff et faire quelque chose en playoff. Ouais. De toute façon, c'est pour ça qu'ils ont recruté Brady.
Donc, aller au divisional. Ouais. Voir ouais. sur un malentendu en au conference game et ils vont pas au Super Bowl, quoi, selon toi.
Franchement, ça serait un peu, je trouve c'est un peu short. Un peu short pour le Super Bowl.
Je suis assez d'accord. À noter, alors c'est une des questions, c'est pas vraiment une question à part entière, mais selon moi, c'est dans la plupart de nos questions, c'est quand même une interrogation qu'il faut mettre en avant. T'as un peu parlé du calendrier. Parce que cette année, on y apporte beaucoup d'importance. Parce que de base, déjà, je trouve ça parfois assez compliqué de juger sur le calendrier futur parce que certaines équipes s'avèrent être des trompe-l'œil. Annoncées très fortes sont pas très fortes ou l'inverse. Et là, cette saison, vu la particularité, on l'a déjà dit au début de cette saison, est-ce que t'apportes quand même de l'importance à l'analyse du calendrier? Moi, j'avoue que j'ai globalement... j'accorde de l'importance à la division, mais le calendrier en lui-même, on avance tellement à l'aveugle que c'est assez compliqué d'en parler.
Ouais, c'est compliqué. Je regarde quand même avec quelle division de l'autre conférence tu croises.
Oui, ça saute.
Ça, tu vois, on en parlera pour les Patriots notamment. Mais compliqué. De toute façon, on a même pas... Après, j'accorde pas souvent beaucoup de crédit aux matchs de pré-saison, mais pas eu de match de pré-saison, pas eu d'OTA, un training camp de moins d'un mois. Franchement, là, on avance sur du verglas. Donc,
Ouais. Là, on navigue à vue. Ça va être aussi difficile, on l'a dit, pour les rookies. À noter aussi, hein, peut-être la ligne des Buccaneers qui est... Alors, c'est peut-être pas le coffre-fort qu'avait eu Brady certaines années aux Patriots, mais c'est une ligne solide. Je pense que, clairement, en termes de bagage, de matériel offensif, surtout au niveau des playmakers, ça fait bien longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça.
Il l'a dit, de toute façon. Il a dit dans quelques interviews qu'il est hyper impressionné par... Il a dit, je vais juste à leur donner la balle, quoi.
Ouais, voilà, c'est donc... Puis eux, au moins, ils vont pouvoir recevoir des ballons, ils vont pas avoir à se battre avec les corners à chaque fois. Ça va peut-être un peu leur changer la vie.
Ce sera pas des 50-50.
Ouais, c'est ça, Mike Evans et Chris Godwin. T'as parlé des Patriots, on peut enchaîner sur justement ton équipe de cœur, les Patriots, la deuxième de nos questions. Même question, les Patriots, on y croit. Alors, je vais te laisser commencer encore une fois là.
Ça m'intéresse plus de t'entendre d'abord.
Alors, les Patriots, est-ce qu'on y croit? T'essayes de me mettre sur le grill en posant la question en premier, je remarque ça. Clairement, déjà, j'ai été surpris par une chose, c'est de voir que la plupart des gens mettaient les Patriots derrière les Bills. Ce qui quand même, certes, je vais revenir sur le papier, je pense que les Bills sont meilleurs, mais il y a quand même une grosse question qui se pose au poste de quarterback. Puis il y a un avantage au niveau du coaching, je pense, du côté des Patriots. Parce que selon moi, la question derrière, c'est est-ce qu'on y croit pour gagner la division? Je pense que tu parlais des attentes. Je pense que côté Patriots, l'objectif cette année, il va être un peu revu à la baisse par rapport aux autres années, c'est gagner la division, déjà. Est-ce qu'ils peuvent gagner la division? Tu vas en parler mieux que moi. Il y a de nombreux absents. C'est l'équipe clairement la plus pénalisée par le Covid vis-à-vis des joueurs qui ont décidé de se retirer de la saison. Et puis, il y a l'énigme Cam Newton. J'appelle ça une énigme, moi, parce que... Alors, certes, du côté des fans bostoniens, on essaye de nous présenter le grand Cam Newton. Il y a quand même beaucoup de mois, voire d'années sans, je dirais, de performance premium qui me font penser qu'il faut hésiter. Alors, est-ce qu'on y croit pour gagner la division? Je pense toujours... Ah, j'avoue que j'hésite. Je dirais que, honnêtement, à ce stade de la saison, je réponds pas à la question, je sais pas. Je pense vraiment que c'est la... Depuis que je regarde la NFL, c'est la fois où la saison est la plus serrée, c'est vrai. La division, la FCS, c'est la plus serrée. Est-ce que j'y crois pour gagner la division? Compliqué. Par contre, pour moi, ils seront en playoff, c'est une certitude. Ensuite, compliqué. J'avoue que... Vraiment, moi, ce qui va me faire pencher, ce qui a fait peut-être pencher la balance limite du côté des Bills, c'est qu'il y a trop d'absents. Il y a beaucoup trop d'absents. Et Cam Newton, on adore tous les deux Cam Newton, mais je sais pas.
Ouais, bah déjà, selon les gens qui analysent et qui Andrie, on prend les pendettes, c'est le plus dur de la NFL. Parce que bon, on va aux Chiefs, aux Seahawks, on joue les Ravens, les 49ers, hors de notre division. C'est pas simple. On va aux Rams aussi, c'est pas non plus partie de plaisir à chaque fois. Donc bon, ça va pas être simple. Tu vois, si on compare, franchement, je trouvais le calendrier de Baltimore plus facile, genre.
Ouais, si on peut un peu analyser les calendriers, oui, celui de Baltimore est pas. Si on
vous croisez avec Giants.
Oui, c'est une bonne année.
Washington,
c'est,
là, c'est... tu vois, t'es bien. Tu l'as dit, les absents. En vrai, il y a 11 joueurs, 10 joueurs qui ont dit qu'ils joueraient pas. Moi, je retiens surtout 3. C'est 3 joueurs qui ont gagné 3 fois le Super Bowl avec les Patriots, donc ils sont importants. C'est Cannon sur la ligne offensive. Et surtout Hightower et Chung en défense. Même si Chung, en vrai, il est toujours un peu blessé depuis quelques années. Mais il est tellement important vocalement et dans le leadership que ça va manquer. Et il y a en fait surtout aussi des pertes à l'intersaison, en fait. Tu vois qu'il y a des joueurs qui sont plus là mais et qui ont été remplacés par des rookies. Donc je pense à Van Noy Collins qui a fait des belles saisons, Brady bien sûr, Jaron Harmon qui a été tradé chez tes potes à Détroit. et puis James Devlin qui est le, alors c'est bon, c'est bête, je vais parler d'un fullback, mais chez nous c'est, il est assez important en fait dans le système. Il n'y a pas vraiment eu de grosse arrivée. Et on a fait zéro signature flashy, quoi. Des fois on fait toujours une signature flashy. La signature flashy, elle arrive avec Cam Newton en fait. Et en fait, moi j'y crois pour gagner la division. Parce que je vais pas, j'avais dit qu'on allait gagner la division avec Jared Stidham en QB.
Oui, donc avec Cam Newton, tu peux difficilement.
Donc je vais pas rétro-pédaler, tu vois, avec Cam Newton. Je pense franchement que on a de quoi gagner la division. Donc j'y crois comme toi pour les playoffs et j'y crois voilà pour la division en tête de série numéro 3 ou 4, plus 4.
Ah oui.
Ouais, plus 4. Franchement, j'y crois. Je crois à Bill Belichick. Franchement, sur une saison sans longue préparation et tout ça, il y a pas un coach que je prendrais pour faire du jeu. Alors bien sûr, l'équipe est un peu différente, jeune, il y a des absents. Il y a le facteur cam. Alors franchement, depuis 2-3 semaines, la propagande pro cam des fans des Patriots,
intense.
Ouais, des fans des Patriots, mais aussi de Belichick, de tout le monde est énorme. Lui, ça se voit qu'il est ultra motivé. Bon, ils sont tous motivés, des joueurs de NFL, bien sûr, mais t'as l'impression qu'il... C'est comme s'il avait gommé 10 ans aux Panthers, tu sais, quand un joueur arrive dans une nouvelle franchise et qu'il en dit tout le bien et que c'est en termes de système, en termes de culture et tout. Chaque fois, je trouve ça un peu bizarre sur l'équipe où il était avant, mais bon. Et puis, voilà, je crois, moi...
À part quand c'est les Jaguars.
Ouais, c'est ça. Ou les Redskins, la football team de Washington, pardon.
c'est vrai.
Et je crois moins aux Bills, donc je pense que voilà, on peut gagner cette division. Donc j'y crois pour gagner la division. On est moins bon que Kansas City, que Baltimore et potentiellement que les Texans, mais j'y crois.
Je vais te poser juste deux questions. Je vais profiter de ton analyse sur les Patriots. Première, est-ce que, encore une fois, ce qui te fait pencher la balance au-delà, bien sûr, de ton affection pour les Patriots, c'est Josh Allen?
Oui.
D'accord.
Parce que l'effectif des Bills est meilleur que celui des Patriots.
Ok. Et deuxième question, parce qu'on en a un peu déjà parlé, ça, Josh Allen, etc., dans nos précédents épisodes, est-ce que, du coup, parce qu'on n'a pas vraiment parlé depuis que Cam Newton est arrivé, est-ce que ça rapproche, selon toi, vraiment de façon significative, les Patriots de ce duo qu'on avait détaché en AFC qui sont Chiefs et Ravens?
Si on a Cam Newton pas à son niveau MVP 2015 ni même à celui de 2017 où il était aussi très très bon, je pense pas qu'on aura celui-là, mais si on a un Cam Newton quand même meilleur que ce qu'on avait vu sur les années précédentes, je pense que oui, ça les rapproche de par rapport à si t'as Jared Stidham starter, oui, le plafond est plus haut, franchement. Donc ouais. Oui, franchement, moi, j'ai été très emballé très vite par cette signature, parce que Brian Hoyer, Jared Stidham, ok, très bien. Si Cam Newton est en bonne santé, qu'il est motivé, qu'on adapte les schémas pour lui, alors comme à Carolina non plus, il n'a pas non plus des armes de fou furieux. Hein. Il n'y a pas eu de draft de receveur. Mohamed Sanu a été coupé. Ça reste un des pires trades.
Ça
te fait plaisir parce qu'à l'époque tu m'avais dit que c'était un trade horrible et t'avais raison. Mohamed Sanu a été coupé. Alors on a ramené des cibles que Cam connaissait aux Panthers, mais qui sont pas des noms connus ou des joueurs qui ont prouvé et qui ont un statut en NFL. Donc tout ça, ça reste encore à voir. Mais ouais, ça les a rapprochés, mais ça, le cran reste vraiment en dessous, pas.
Ok, et eh ben on peut continuer avec la troisième question. Alan et moi, avant le début de l'émission, on s'était dit allez, une petite heure. 20 minutes plus tard, on est à la troisième question. Je pense que, comme d'habitude, on est pile dans le timing. Alors, last to first, c'est un peu le mantra souvent pour certaines équipes classées à la dernière place de leur division de finir première, forcément l'année d'après. C'est quelque chose que du côté des médias américains, on met souvent en avant parce que ça arrive souvent depuis le réalignement des divisions en 2002, c'est arrivé à 25 reprises. C'est-à-dire qu'en gros, 25 fois sur 18 saisons, on est à une moyenne de 1.4, donc en gros, et dont 6 fois sur les 5 dernières années. Donc on est sur une moyenne d'un peu plus de 1, donc voilà, souvent le jeu c'est de se dire, qui est-ce que c'est déjà possible cette année et qui peut le faire? Avant de te laisser répondre, Alan, je vais donner aux auditeurs la liste des équipes qui ont terminé dernière de leur division la saison dernière. On a donc les Bengals, les Cardinals, les Chargers, les Dolphins, les Lions, les Jaguars, les Panthers et la Washington Football Team, voilà, de son nouveau nom. Compliqué cette année, on va en parler, compliqué. Ouais. Alors je sais, tu m'as déjà donné la réponse avant qu'on enregistre, mais pour toi, est-ce que c'est possible? Et si oui, qui peut le faire?
Le pick sexy, c'est Arizona. Sauf qu'en fait, ils sont dans la division avec Seattle, les 49ers et les Rams. Pour moi, je pense que ça sera compliqué. Je pense que ça n'arrivera pas. Et si je devais dire qui ça serait, je vais dire les Lions.
Oh non.
Les Lions, parce qu'ils sont dans la NFC Nord où Green Bay, l'année dernière, a surperformé par rapport à son niveau. On l'avait dit tous les deux. Ils ont un calendrier plus difficile cette année, a priori. Les Vikings. Ouais, ils ont gagné un match en playoff l'année passée, mais j'ai l'impression qu'il y avait énormément de turnover dans l'effectif. Alors, ils ont quand même réussi à ramener Ngakoue, là, il y a deux semaines. Donc, ça, quand même, c'est important et bien pour eux, mais beaucoup, beaucoup de turnover dans leur effectif à des postes importants en plus. Et Chicago, Mitch Trubisky a été nommé starter. Donc, ça me garantit pas grand chose. Je dis Détroit parce que par défaut et parce que l'année passée, quand il y avait Matt Stafford qui était pas blessé, je crois qu'ils étaient en 3, 4 et 1 avant qu'ils se blessent. Après, ils ont gagné un match de toute la saison, je crois. Parce qu'ils ont mis de l'argent dans la free agency et parce que s'ils gagnent pas cette année, Patricia et Quinn se font virer.
Et moi, je pense que ce qui fait que je ne crois pas en ces Lions, c'est justement que je ne crois pas en Patricia. On avait, encore une fois, on revient sur certains points qu'on avait abordés dans des précédents épisodes. Les Lions avaient joué beaucoup de matchs serrés, et ça, les statistiques te montrent que souvent, s'ils sont allés beaucoup de fois en ta faveur, l'année d'après, ils iront en ta défaveur. Enfin, bref, ça me fait penser aux Raiders de l'époque Del Rio, qui avaient une saison gagné tous leurs matchs serrés. Sauf que oui, c'était, on voyait bien que ensuite c'était la poudre de perlimpinpin. Voilà. Par rapport aux autres équipes, bah, je suis assez d'accord avec toi. Si on fait un rapide revue d'effectifs, les Bengals, non. Il y a les Ravens, et même si les Ravens se cassent vraiment la tête, les Steelers et les Browns sont au-dessus. Les Cardinals, tu l'as dit, la division est trop forte. Les Chargers, il y a cette incertitude au poste de quarterback. Puis ils ont la meilleure équipe de la NFL. Les Dolphins, faut savoir qu'à Las Vegas, c'est l'équipe, d'après les bookmakers, la plus c'est l'équipe pour laquelle c'est le plus probable, ça. Sauf que, on l'a dit, on voit les Patriots et les Bills se tirer la bourre en haut. Les Lions, je l'ai fait. Les Jaguars, les Panthers et Washington, on en parle dans 3 minutes. Je les vois absolument pas le faire. Donc, si je devais même parier, j'irais peut-être Lions, mais j'y crois vraiment.
Ah, moi, j'y crois pas non plus.
Pas du tout.
Là, je me suis forcé à choisir, tu vois, pour l'exercice.
Je me demande même si je ne croirais pas plus dans les Dolphins que les Lions.
Ah ouais.
Mais, parce que après, les Cardinals, est-ce qu'on veut pas être de gros hipsters et pas les donner juste parce que tout le monde les adore?
Tout le monde les adore, ouais. Mais parce qu'il y a une division, il y a Russell Wilson et Kyle Shanahan et McVay quand même.
Ouais, c'est solide. Surtout que les Rams, alors, on se moque souvent de leurs 86 millions dans 3 joueurs. Je pense qu'ils ont...
Tu vas m'en entendre parler plus tard, je pense.
D'accord. ils vont peut-être entamer cette saison avec des choses à prouver. Surtout que j'ai regardé, jouissance personnelle, j'ai regardé à nouveau cet été le Monday Night où les Ravens vont les oblitérer à Los Angeles. Et à ce moment-là, ils sont pas loin des playoffs quand même. Donc je pense qu'il y a quelque chose à prouver. Si ça te dérange pas, Alan, je pense qu'on peut tout de suite passer vers la quatrième question. Et pourquoi j'ai dit qu'on allait parler plus tard des Jaguars, des Panthers, de la Washington Football Team, c'est tout simplement parce qu'on va parler de la course au premier choix Panthers, Jaguars, Washington Football Team, qui pour la course au premier choix, Alan, si j'ai mis ces trois équipes, c'est parce qu'à Las Vegas, c'est les trois équipes qui se détachent largement pour avoir le pire bilan. Dans l'ordre, d'ailleurs, c'est les Jaguars en premier, Washington en deuxième et les Panthers en troisième. Alan, qui va finir avec le pire bilan cette année?
J'hésite entre les Jaguars et la Washington Football Team.
Je suis désolé, mais c'est tellement peu naturel de dire ça.
C'est pas naturel du tout. Je vais dire les Jaguars. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé cet été, enfin, c'est intéressant, c'est un dégraissage en bande organisée qui s'est passé. C'est-à-dire plus de Ngakwe aux Vikings, plus d'EJ Bouye envoyé aux Broncos, Malik Jackson envoyé aux Eagles, Calais Campbell que t'as récupéré. Il y a une semaine, ils ont même tradé Ronnie Harrison, leur starter au poste de safety aux Browns, qui était pour pallier à la blessure de Delpit.
Je te coupe deux secondes, ça a été noté par pas mal de gens sur Twitter. Quand tu fais une reconstruction, le principe c'est de te baser sur les jeunes joueurs. Mmh. T'as un super safety dans son contrat rookie, tu le trades pour un choix de draft qui est juste une hypothèse, une potentialité. C'est incompréhensible.
J'ai pas compris ce trade. Donc je pense que voilà, l'équipe va tanker doucement mais sûrement. Si tu regardes l'effectif, franchement, très très peu de talent dans cet effectif. Tu regardes la défense par rapport à la défense qu'ils avaient il y a 2 ans, et il reste qu'un joueur dans l'équipe, c'est Miles Jack. Sinon, plus personne n'est là. Donc ouais, franchement, c'est compliqué. Et donc, moi, je vais dire les Jaguars. Ce qui pourrait me faire dire la Washington, c'est si Haskins c'est vraiment pas bon, quoi. Si Haskins c'est pas bon, peut-être qu'ils peuvent perdre un camion de match. Les Panthers, ça sera sérieux avec Teddy B. Ils seront pas exceptionnels, mais ça sera pas horrible, je pense. Donc je vais dire les Jaguars. En plus, ils sont dans une division où tout le monde va vouloir gagner les matchs contre eux, parce que la division est assez à un niveau moyen. Donc mon pic, c'est les Jaguars.
Je suis assez d'accord avec toi. Je pense comme toi, j'écarte un peu les Panthers parce que oui, c'est sérieux. Alors eux, je pense que défensivement, ils vont avoir des gros problèmes, mais Teddy B qui joue aussi quand même pas mal de choses pour prouver que ça peut être un starter potentiel. McCaffrey qui est quand même toujours un des meilleurs joueurs offensifs de la... Enfin, les Jaguars tueraient pour avoir un mec du niveau de McCaffrey quand même à l'heure actuelle dans leur effectif. Donc ouais, après les Panthers, je pense, toi comme moi, on les voit dans le top 5, mais pas premier choix. Ensuite,
je le vois comme Miami de l'année dernière un peu, tu vois, les Panthers.
Ouais, une équipe qui a pas de talent mais qui est sérieuse. Ensuite, ouais, le match, c'est Jaguars-Washington. Moi, je t'avoue quand même que avec Washington, j'ai l'impression que c'est un mauvais San Francisco. Ils ont beaucoup investi sur le front seven, c'est bien.
Tout dans le front fort.
Mais il y a rien. Alors, Terry McLaurin va essayer de faire une saison sophomore de l'Acabit, sa saison rookie, mais on en avait parlé au moment de la draft. C'est extrêmement compliqué. Enfin, il y a très peu de talent dans... En dehors de ce même, oui, c'est même pas le front seven, hein, c'est vraiment la ligne défensive. Il y a très peu de talent. Et vraiment, moi, ce qui me fait pencher pour ajouter à ce que t'as dit, la balance du côté des Jaguars, c'est aussi, j'ai l'impression qu'on est devant une organisation, il y a rien qui va. Enfin, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est quand même incroyable que dès qu'un mec se barre de Jacksonville, la première chose qu'il fait, c'est qu'il prend son portable, il allume Twitter et il désingue l'organisation. Tous, c'est incroyable. Enfin, ok, des fois, tu peux avoir des quelques non-dits, des problèmes avec l'organisation. Là, c'est tous les joueurs à chaque fois qu'ils partent. Donc, je trouve vraiment qu'on a un peu ce potentiel d'équipe qui, voilà, va faire une saison catastrophique où le propriétaire va laver tout ça à la fin de la saison et va repartir sur des bonnes bases avec Trevor Lawrence. Voilà, je pense que c'est clairement, on part sur ça. Même si Washington aura, je pense, son mot à dire, et que pour moi, ce qui m'a aussi peut-être fait pencher la balance, c'est que Washington, sur un bon jour, Daniel Jones envoie 4 interceptions et ils gagnent le match contre les... Leur division est moins brutale que celle des Jaguars.
Mmh. Oui, et puis ils gagnent le match qui fait qu'ils ont une victoire de plus, et puis voilà, quoi.
Mmh. Puis bon, après, et puis bon, après Washington, pour eux, pas cadeau de croiser avec l'AFC Nord, du coup. Là où je vois pas où ils peuvent... peut-être les Bengals, mais je vois pas où ils peuvent vraiment gagner des matchs. Eh ben voilà, on souhaite bonne chance aux fans des Jaguars. C'est un peu les montagnes russes avec beaucoup de creux, hein, être fan des Jaguars. Il y a eu quoi 20 mois d'embellie, ouais, quelque chose comme ça, puis c'est de nouveau compliqué. Cinquième de nos questions, Alan, la hype de la saison, qui va se rater? Ça peut être une équipe, ça peut être une équipe, ça peut être une équipe, ça peut être un joueur, une hype de l'intersaison qui va avoir un peu plus de mal que prévu. Mmh.
Les Bills.
Non, mais...
Trop facile. Non, c'est pas les Bills, c'est la hype Josh Allen.
Non, mais ça n'arrête pas.
La hype Josh Allen qui passe le cap entre année 2 et année 3. On lui a apporté Stephon Diggs. Franchement, il n'a pas d'excuse cette année, Josh Allen. Parce que la ligne est bonne. Je pense qu'on peut le dire, la ligne est... solide, il a une ligne solide, il a des playmakers et il a des bons running back. Le problème c'est qu'il voilà, il s'est toujours pas lancé une balle dans plus de 30 yards quoi. C'est que la stat était, je crois que c'est, il est à 6/49 dans sa carrière NFL dans les balles qui ont traversé plus de 30 yards dans l'air. Je sais pas combien de pourcentage de réussite ça fait, mais c'est abyssal. Donc les Bills sont une très bonne équipe, très très bien coachée par McDermott, qui arrive à en tirer le plus possible. Ils ont il a importé une vraie belle culture, je trouve, là-bas. Juste, je crois pas au step-up de Josh Allen, step-up dont ils ont besoin pour faire du bruit en AFC, parce que l'année passée, si Josh Allen fait moins de bêtises, il passe les Texans. Hein. Il passe les Texans en playoff. Donc juste, je crois pas. J'ai besoin de voir pour que Josh Allen a plus de 60% de... On me dit Josh Allen, il a jamais complété plus de 60% de ses passes. J'ai besoin de le voir à plus de 60% de ses passes. On me dit il peut utiliser ses jambes, c'est vrai, mais ne le voir pas et devenir trop prédictible et sortir de sa poche rapidement quand il a pas de solution. Voilà, j'attends un step up, et avec peut-être le manque d'intersaison, même si le staff reste le même, j'y crois pas en fait, tout simplement.
Côté Bill, je croyais que t'allais partir sur un Josh Norman qui est... Bon, je pense que la plupart des gens se sont attrapés et ont conscience qu'il est Xavier Rhodes, ouais, qui sont deux corners qui vivent et qui font toujours des Pro Bowls, hein, qui vivent sur leur gloire d'antan, mais qui sont plus si incroyables que ça. Alors, c'est des questions qui se posent, mais on va être honnête, c'est pas, on souhaite à personne de se rater, donc c'est pas la question qui nous enjaille le plus, comme diraient les jeunes. Je dirais, de mon côté, la hype de la saison qui va se rater. C'est un peu compliqué parce que j'avais peur de contredire ce que j'avais pu dire, tu vois, précédemment, quand on avait fait le bilan AFC-NFC. Mmh. J'avais un peu peur de bousculer ça, mais je suis pas super serein avec les Cowboys. Plus j'y pense. Alors, est-ce qu'on peut parler de hype? C'est pas vraiment une hype, mais je suis pas serein avec les Cowboys. Plus j'y pense, plus je me dis que Dak, il y a toujours, on en a parlé, on va pas revenir sur des choses dont on a parlé énormément, il y a toujours cette question du contrat. Le backfield défensif pose toujours des questions. La défense, globalement... Enfin, bref. Tout ce que j'avais expliqué l'autre fois, je pense que quand j'ai fait mes vrais previews NFL, je me suis dit... Côté Cowboys...
Ouais, t'as pas eu de réponse en plus, quoi, par rapport...
En fait. J'ai l'impression qu'on a pris les problèmes de l'année dernière et on a toujours les mêmes. Mmh. Alors, certes, on nous sortira une ligne top 5, etc. Certes,
mais... Nouveau coach et tout, ouais.
Nouveau coach et tout. Enfin, je pense... Peut-être, en fait, je pense que McCarthy va insuffler du sérieux. Je suis pas sûr qu'il va révolutionner ce qui va se passer. Enfin, bref, c'est pas l'équipe en soi qui me... moi, j'ai décidé de partir du côté des équipes. C'est pas l'équipe, les Cowboys, qui me rassure le plus. Après, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que c'est une équipe qui a un gros... entre leur meilleur potentiel et leur pire potentiel, je pense qu'il y a très peu d'équipes qui ont un tel delta. Autre équipe qui me pose beaucoup de questions, là ça va te faire plaisir, c'est depuis la signature de Jadeveon Clowney, c'est les monstres de l'AFC, les Titans. Alors les Titans, il y a Clooney, il y a Simmons sur la ligne, le qui était rookie, qui est sophomore. On leur prête beaucoup de choses. Ok, j'ai quand même énormément de mal à les mettre comme des une équipe qui pourrait gêner le duo en AFC.
Ah, pareil. Ouais. J'ai besoin de revoir pour croire que Ryan Tannehill va faire ce qu'il a fait en passé. Il le fera pas, c'est impossible de refaire ça. Mais même de le voir sur 16 matchs, ouais, je suis d'accord avec toi. Il faut pas oublier que nos proches le savent. L'année dernière, on avait démasqué la hype Browns et on avait raison.
C'est vrai, c'est vrai. Alors oui, ça, à l'époque, on faisait pas de podcast, mais la hype Browns, on rigolait doucement. Ouais. Quand même, l'année dernière, à cette époque, les Browns étaient en finale de conf en AFC.
Contre les Patriots. Rappelle,
ouais. Contre les Patriots. Ouais,
c'est clair.
Donc je rappelle quand même qu'il faut un peu se méfier. Après c'est assez difficile. Enfin moi quand je dis les Cowboys, c'est les Cowboys. Quand je lis que c'est la meilleure, enfin pas la meilleure, c'est la meilleure des équipes après. Ce que j'ai pu sous-entendre ou dire dans un autre épisode, je suis un peu revenu sur mon jugement. Il y a que les Devils qui changent pas d'avis. Et les Titans, là où pour moi ça va se rater, c'est que je les vois pas comme des candidats crédibles pour bousculer le top 2.
Ok.
En gros, je les vois pas refaire leur match de playoff à Kansas City.
Oui, tu les vois pas aller au final de conf.
C'est ça, ouais. Tout bonnement, je n'y crois pas. N'hésitez pas vous aussi à nous partager les équipes en quelles vous ne croyez pas vraiment pour cette saison. Nous, on continue d'avancer. Question numéro 6. Ah, on a mis un vrai coup de collier là, après ce début un peu compliqué. Question numéro 6. Alors là, c'est l'inverse. Notre surprise de la saison, ça peut être un joueur, ça peut être une équipe. La surprise de la saison.
Moi, c'est les Rams.
Ah, c'est pour ça que t'as pas trop réagi tout à l'heure.
C'est exactement pour ça. En fait, je trouve que l'année dernière, ils se sont fait critiquer à juste titre sur certaines choses, mais tout le monde a oublié que cette équipe, elle a gagné 9 matchs quand même l'année dernière. 9-7. Tout le monde a parlé de la régression de Jared Goff et de son contrat à juste titre, des contrats donnés. Je crois que tu m'as envoyé un message et c'est vrai. Je crois qu'ils ont ils ont condensé les contrats dans 3 joueurs, quoi. Parce que Gurley n'est plus là, il est coupé. Il leur donne toujours un peu d'argent, mais Ramsey avec son extension, Aaron Donald et puis Jared Goff prennent tout quasiment de l'équipe. On a aussi parlé de Todd Gurley et compagnie à juste titre, mais ils ont quand même réussi à gagner 9 matchs. Moi, voilà, je compte sur. Je crois beaucoup en Sean McVay, je le dis tout le temps, pour gargariser les troupes, redresser l'équipe surtout, redresser le jeu au sol. Il y aura plus de Gurley, donc c'est bien en fait, parce qu'il jouait, mais il jouait blessé. Et ça se voyait un peu, il jouait en fonction de son contrat, de son statut, je trouvais. Et puis voilà, McVay, il vient de l'arbre Shanahan. Je pense que il va pas te faire de tout le monde des Todd Gurley, bien sûr, mais il peut te tirer le meilleur de plusieurs running backs. Ils ont drafté, ils en ont en magasin. Et puis voilà, Jared Goff, je pense que même s'il vaut pas son contrat, le pire est passé. Le pire, c'était l'année dernière, c'était horrible. Il peut être que meilleur, parce qu'il était mauvais. Donc même s'il est moyen, je pense qu'ils peuvent accrocher un truc.
Je te rejoins, c'est leur seul problème étant leur division qui est quand même d'une violence assez...
Il les joue bien quand même, il les joue souvent bien. Enfin, parce que tu te souviens, l'année passée, ils ont failli taper les 49ers. Il y a une passe de Garoppolo dans les dernières secondes. Ils vont gagner à Seattle sur un field goal. C'est une équipe qui joue les yeux dans les yeux avec les deux bulldogs de la division.
Et c'est vrai que, comme tu l'as dit aussi, ils se font beaucoup attraper pour leur signature. C'est vrai, je t'avais envoyé ce tweet-là. Jalen Ramsey, Jared Goff et Aaron Donald, c'est plus, donc c'est 3 joueurs que côté Ravens, Ronnie Stanley, Calais Campbell, Lamar Jackson, Marquise Brown, Mark Andrews, Mark Ingram, Justin Tucker, Marlon Humphrey, Orlando Brown, Marcus Peters, Jimmy Smith et Derek Wolfe. C'est vrai que ça fait une sacrée liste. Non, je suis assez d'accord avec les Rams. Je pense juste que, selon moi, il y a les deux problèmes qui découlent forcément de ce que je viens de dire avec ce tweet assez amusant. C'est que d'abord, il y a la profondeur qui va poser question. Sur certains postes, ils ont perdu Corey Littleton. Enfin, bref. Ça pose question, que tu l'as sous-entendu, bien sûr. Et la division qui quand même me fait peur. C'est-à-dire que la division est tellement forte, ça serait même pas une surprise de les voir rater les playoffs.
Donc, c'est clair.
Parce que par surprise de la saison, ça veut dire quoi? Un match gagné en playoffs?
Je les vois aller en playoff, ouais. Je les vois aller en playoff et je les ai, tu vois, je les ai été de série 6 ou 7, donc compliqué d'aller gagner. Hein.
D'aller gagner, ouais. Compliqué d'aller gagner, mais déjà, ça serait une vraie perf. C'est vrai, ça serait une vraie perf.
Ouais, tu vois, puis ils ont, franchement, ils ont réussi, je trouve, à rattraper des erreurs aussi. Franchement, refiler Brandin Cooks pour un second tour avec le contrat qu'il lui avait donné, et c'est assez bien. Ils ont fait des signatures, voilà, ils ont profité du fait que vous n'avez pas pris Brokers pour le reprendre aussi. Alors oui, il y a toujours des soucis, toujours des problèmes dans cet effectif. Il y a un corner, c'est Ramsey. Le deuxième corner va avoir beaucoup de boulot. Mais je me dis que je fais quand même confiance à ce qu'a bâti McVay, en fait. Donc c'est un de mes candidats à la surprise de la saison la plus sérieuse.
Alors moi, justement, je vais revenir un peu sur ce que t'as dit par rapport aux Browns de l'année dernière. C'est Kevin Clark, un journaliste de The Ringer, qui dit souvent ça. La NFL prédit souvent ses surprises un an trop tôt. Et je pense que c'est l'année des Browns.
Okay.
Je pense qu'avec Stefanski, je pense qu'après avoir l'échec retentissant Kitchens, aussi, je pense qu'ils ont dû se mettre un peu de plomb dans la tête, parce qu'on les voit un peu moins sortir dans les médias, je trouve, que l'année dernière, où pour une équipe qui ne faisait rien, ils l'ouvraient quand même beaucoup. Là, je trouve clairement qu'il y a danger pour la division, c'est peut-être fort, parce que bon, tu sais que je suis souvent très
terrorisé.
Frileux.
Oui.
Ouais, très frileux vis-à-vis de d'abord les Browns. Je dis toujours, ça fait 2 ans que je dis, et ça m'effraie énormément que les Ravens les jouent en semaine 1, pour être honnête. Ça m'effraie, et je suis assez effrayé aussi de donner les Ravens haut. Mais je trouve que ces Browns ont un peu tout pour séduire. En gros, on reprend les arguments de l'année dernière et on les rajoute à cette année avec une ligne qui a été améliorée avec Jack Conklin. Enfin bref, je trouve que c'est une équipe ultra solide qui a un an de plus dans la bouteille, qui cette année aura pas besoin de répondre à toutes les attentes. On n'a jamais si peu parlé d'Odell Beckham, j'ai l'impression, depuis qu'il est dans la ligue. Ouais. On va en parler. Beaucoup de gens disent que Baker Mayfield doit prouver cette année. Persiste, je trouve que sur ce qu'il a fait dans sa saison rookie, on a eu des gages l'année dernière, les appels de jeu étaient abominables. Enfin bref, je pense, et pour répondre un peu à la question sous-entendue, playoff, et ils peuvent gagner un match.
Ok. Ah oui.
Ah, quoique, le problème, mais on est à 7 maintenant.
Ouais. Et le 7 joue 2.
Donc, s'ils arrivent à être 5, ils seraient bons.
Ouais, ils auraient un wild card
classique. Parce que, honnêtement, sans nous étendre trop longtemps sur cette question-là, je trouve pas que à l'Ouest, AFC Ouest, il y ait une équipe qui puisse être meilleure en 2. Au Sud, c'est beaucoup d'équipes qui vont se tirer la bourre, mais il y a la question au Sud. Et à l'Est,
ils peuvent embêter Bills et Patriots complètement.
Donc je crois vraiment en ces Browns.
Okay.
Je crois vraiment en ces Browns. Après, c'est le syndrome classique de l'équipe qui joue bien contre toi, donc t'es traumatisé. Mais moi, je vous dis, alors je vais peut-être me tromper, mais
syndrome Serge Ibaka.
Voilà, je suis tout sauf serein vis-à-vis de ce premier match de la saison. Ce qui me rassure juste, et on pourra passer à la question suivante, c'est que c'est le premier match de la saison et historiquement les Browns l'ont perdu. L'ont perdu toutes les années depuis qu'ils sont à Cleveland, à l'exception d'une, c'était contre les Ravens, mais il y a une quinzaine d'années,
okay.
Je crois en 2004 peut-être. Et les Ravens de l'autre, je pense, c'est une équipe coaching staff bien préparée. Mais je suis pas serein vis-à-vis de ce match.
Ils jouent bien de toute façon, historiquement.
Ils jouent très bien, ils peuvent bloquer le run, ils posent des gros problèmes. Après, traumatisme titan, les Eric DiCosta, le GM des Ravens, a bien bladé la ligne, donc... on verra. Ravens, on va un petit peu rester en lien avec ça. Course au MVP, question numéro 7. MVP, Alan, qui en dehors du trio Mahomes, Jackson, Watson, qui en dehors de ce trio de quarterback AFC pour glaner le MVP? Même question un peu, il y a 2 ou 3 questions. D'abord, est-ce que tu crois que le MVP peut échapper à un des 3? Et si oui, qui peut aller l'arracher?
Moi, mon pick, c'est Mahomes pour le MVP. On va me dire, ouais, facile, facilité. Mais franchement, on regarde le match de jeudi, il est même pas bon. Sérieux. il loupe des lancers, et c'est normal avec un petit peu l'intersaison, tout ça. Il loupe des trucs, il finit. Parce que c'est un trophée qui mêle réussite collective et statistiques individuelles. Il va avoir la réussite collective et les stats individuelles, même quand il n'est pas exceptionnel, il finit avec 3 touchdowns, 0 interception et un très bon pourcentage de passes complétées. Donc moi, mon pick, c'est Patrick Mahomes. Si je dois en dire un, je dirais Russell Wilson. Je prends pas de risque sur cette question, je vais avec des valeurs sûres.
Ouais, je vois ça.
Les valeurs sont sûres, Russell Wilson, parce que il a aussi, il a la réussite collective et tout ça aussi. Il a la réussite collective, il a les stats individuels hein, depuis quelques saisons, et il a aussi ce truc où on a l'impression qu'il porte l'équipe avec Russell Wilson, et ça peut jouer dans la course MVP malgré qu'il ne l'ait jamais eu. De mémoire, je crois qu'il a jamais été MVP Russell Wilson. Et donc
non, il a même le truc qui est assez marrant, c'est qu'il a jamais eu de vote pour être MVP. Ouais. C'est la stat qui était sortie cette année.
C'est ça. Donc je dirais Russell Wilson parce que je crois aux Seahawks dans la NFC, et donc voilà. Pic de facilité.
Donc tu ne crois pas en, parce que si tu mets les Rams en playoff, donc il y a peut-être un peu moins de croyance dans les 49ers. C'est ce que tu dois.
Ouais, ou alors trois équipes en playoff de la même division.
Avec sept strapontins, c'est possible. Pareil, on fait pas dans l'innovation, hein, mais Mahomes, enfin, je trouve que ce qu'on a vu sur un premier match de saison, c'est assez terrifiant. Depuis, en gros, le Peyton Manning qui en passe 7 aux Ravens l'année après du titre des Ravens. Enfin, c'est une grosse impression pour démarrer, je trouve. C'est d'ailleurs le favori à Vegas, hein. Mahomes, c'est pas un secret. Enfin, l'année dernière, on sait qu'il était gêné par sa cheville, et il fait les éclats sont toujours là, donc lui, il part largement favori. Wilson, c'est assez intéressant ce que tu as pu dire, parce que c'est le seul qui se glisse à Vegas entre Mahomes 1, Jackson 2, Wilson 3 et Watson 4. Donc voilà. En dehors de ça, je vois pas qui pourrait aller faire un long shot, aller chercher le MVP. J'ai du mal cette année. Wentz a eu des grands moments, mais je trouve que le soufflet a un peu retombé sur Carson Wentz, qui est toujours dans les grands favoris. Rodgers, d'habitude, c'est un des choix les plus commentés. Je le vois pas trop cette année. Non. Dak est très haut. Dak est derrière, ça fait Mahomes, Jackson, Wilson, Watson, Brady, Breeze, Prescott. Prescott. Bah, je pense que tout le monde le souhaite à Dallas, sauf Jerry Jones, ça, mais.
Ouais, c'est clair.
Mais non, ouais, on se dirige vers Mahomes, je pense. Enfin, il semble assez largement même favori pour cette question-là. La meilleure défense de la saison, Alan.
Ça sera plus la nôtre. Je tiens à dire que c'était la nôtre l'année dernière quand même. Mais alors j'ai trois candidats. J'ai les Bears, les 49ers et finalement l'équipe que j'ai choisie, Ben, c'est les Steelers. J'ai choisi les Steelers.
Tu es autorisé à quitter ce podcast maintenant.
Steelers, pourquoi? J'aime le front seven. Cam Ward, Stephon Tuitt, TJ Watt, Devin Bush en année 2.
Ouais, ça fait peur.
Souvent les linebackers de centraux ont un besoin d'un temps d'adaptation pour évoluer du simple je vois, je plaque, genre je vois, je réagis, le truc simple quoi. Ils ont besoin d'un peu plus longtemps. Ils ont et le backfield défensif, il y a Minka Fitzpatrick, Joe Hayden, Mike Hilton, qui est un joueur sous-coté mais un des meilleurs slot corners de NFL. Ils ont réussi à récupérer Sean Davis, qu'ils aient fait couper par les Redskins, et ça j'aime beaucoup parce que j'ai aucune confiance en Terrell Edmonds. Donc je dis les Steelers. De bas je voulais dire les Bears, mais je trouve le backfield défensif moins bon qu'il y a 2 ans, et puis il n'y a plus Vic Fangio. Mais c'est le même type de défense, gros front seven, playmaker safety, c'est ce que j'aime bien souvent. Donc voilà, mais j'ai les Steelers.
Alors, après avoir réagi à ce camouflet d'Alan, non, je pense que les Steelers seront top 5 défense NFL. C'est une ligne incroyable. TJ Watt, un des meilleurs pass rushers. C'est vrai, Je pense que ce qui change un peu l'addition du côté des Steelers récemment, c'est clairement le backfield défensif, où ils avaient quand même la sévère tendance ces dernières années de se faire ouvrir. Ils ont tradé pour Micah Fitzpatrick, ça a payé. Ils ont Joe Hayden, même si moi je mettrais un petit bémol sur Joe Hayden qui, mine de rien, commence à avoir de l'âge, oui. Qui est un joueur qui avait eu des gros problèmes de blessures sur ses dernières campagnes à Cleveland, qui a manqué un match sur les deux dernières saisons avec... Alors je souhaite à personne de se blesser, je dis juste que c'est assez rare un joueur qui, après avoir souffert de blessures, revient comme ça. Ensuite, ça m'étonne pas que Alan PFF parle de Mike Hilton, qui est un mec qui revient souvent sur Pro Football Focus. C'est pas surprenant, ça. Ça ne m'étonne pas. Classique. Non, grosse défense. Je suis assez d'accord. Globalement, les défenses dont t'as parlé reviennent souvent. Moi, les 49ers, j'ai un peu peur du soufflet. On parle souvent de ce système Seattle. Beaucoup de joueurs qui ont surperformé. Je pense, pas Nick Bosa qui, on s'attendait à le voir performer comme ça. Je pense qu'on a clairement un mec qui va attraper ses 15 sacs par saison, ce qui est quand même incroyable de dire ça. Enfin bref, le backfield défensif des 49ers pose un peu question. Richard Sherman n'est pas tout jeune. Bon, il revenait d'une blessure, il a bien joué. On peut espérer qu'il rejoue mieux, mais pour ces postes quand même, qui, je pense, on est d'accord, le poste de cornerback, c'est celui qui demande, qui appuie plus sur les qualités athlétiques, perdre un chouïa de vitesse, etc., c'est un gros problème. Je te rejoins peut-être sur les Steelers, mais je trouve que ouais, les Bears, il y a quelque chose à jouer. Khalil Mack, je pense, moi, c'est un joueur qui m'avait un peu déçu l'année dernière, je l'ai déjà dit dans d'autres émissions. Je pense que là, il va revenir pour casser des bouches, clairement.
Ton pote Robert Quinn.
Ils ont ramené un joueur que j'apprécie, mais qui a été payé comme un tsar. Ouais. On sait pas vraiment pourquoi. Qui d'ailleurs va remplacer Leonard Floyd. C'est une amélioration. Globalement, ça reste quand même avec Eddie Jackson. Tu sais, mon amour pour les safety. C'est un peu le nom du podcast. Eddie Jackson est vraiment trop fort. Hakim Hicks. Enfin, bref. Il y a du monde. Roquan Smith, on est un podcast au public. On peut pas tout dire. Mais, moi j'ai un peu peur, je t'en parlais en off. Je croyais en cette défense c'était Foles. Je me dis souvent, on l'a vu avec les Jaguars, c'est un moment quand l'attaque, il y a psychologiquement, ça tue une défense de pas voir l'attaque avancer. Avec Foles a quand même le fluide, faut être honnête, aurait pu inspirer cette défense. J'ai des doutes.
Ouais, les Jaguars, ils avaient démissionné avec Bortles à un moment.
Ouais, totalement. Donc, ça m'étonne que t'aies pas cité les Bills, qui ont aussi leur carte à jouer dans.
Les Bills, ouais.
Mais si je devais donner une équipe, ouais, je donnerais peut-être. Ça joue entre les trois là et peut-être Steelers, mais compliqué. Il y a des belles défenses cette année. Les Ravens aussi, même si j'ai un peu peur qu'on demande trop aux jeunes Deshaun Elliott, donc à voir.
Pareil, Patriots, trop de pertes et ce serait une bonne défense avec des rookies intéressants, mais ce sera moins forte que l'année passée, je pense.
Et peut-être, alors j'avais pas prévu cette question-là, mais la défense surprise, parce que tous les ans, enfin un peu les 49ers de l'année dernière, même s'ils étaient déjà pas mal bons, il y a une défense qui sort de nulle part et qui devient intraitable. Elle pourrait venir d'où cette année ? Les Vikings ?
Ouais, mais ils vont quand même starter deux corners rookies, non ?
Ouais. Gladney, qu'ils ont pris à la
droite. Gladney et Dantzler. Ils se prennent Ngakoue, ça fait du bien. T'as Ngakoue,
Daniel Hunter.
T'as Anthony Barr, Kendricks. Non, bonne défense. Hein. Bonne défense.
Mon
pic, tu le sais, c'est les Chargers en vrai, sauf qu'il n'y a plus Derwin, quoi.
Ouais.
S'il y avait James, j'aurais même pic les Chargers pour être la meilleure défense de NFL.
Est-ce que c'est pas juste la plus sexy?
C'est la plus moderne, c'est la plus hybride, la plus fantasmée, tu vois. Donc, mais ils ont quand même été chercher aussi des gars sur la ligne, des lignes Val-Joseph, ils ont joué Bosa. En fait, tu vois, si Ingram jouait et que Derwin n'était pas blessé, pour moi, ils étaient clairement dans la lutte, quoi.
Enfin, des belles défenses du côté de... Bah, beaucoup en... Les Browns aussi. Si je crois aux Browns, je suis obligé de les mentionner sur le papier. Ouais. Même si là, ils commencent la saison. Greedy Williams a des bobos. Enfin bref, il y a quelques questions sur leur backfield défensif, mais les Browns aussi. Bonne chance, Joe Burrow, j'ai envie de dire. Bonne chance. On va continuer. Question numéro 9. Le joueur qui va tout exploser. Alors vous allez nous dire, oui, vous avez parlé de la surprise, différent. Ce joueur qui va tout exploser, c'est potentiellement un joueur qui est déjà très bon. C'est là, on arrive sur Mars, là. Clairement, c'est une explosion totale. Qui va tout exploser cette saison, Alan?
Nick Chubb.
Tu as décidé, vraiment, là, c'est...
Nick Chubb. Parce que pour moi, il est déjà top... Je vais pas dire de dinguerie, hein. Top 5 running back NFL, pour pas dire top 3.
Ouais, très, très
l'année dernière, 1494 yards au sol, 5, surtout 5 yards par portée, dans une ligne qui n'était pas fameuse. Et puis surtout, plus la saison passait, plus c'était vraiment l'attention se focalisait sur lui, j'avais l'impression, parce que Mayfield n'était pas top et voilà. Et là, je pense qu'en fait, avec Kevin Stefanski, donc qui vient des Vikings, donc qui a bossé avec Kubiak, donc système Shanahan, père, compagnie, je la refais pas pour tout le monde, hein, les gens savent. Il va être voilà mis en avant comme pouvait l'être Dalvin Cook du côté des Vikings. Donc je pense que peut-être pas les mêmes, peut-être des stats similaires à la course, hein, mais encore plus de ballons captés, je pense. Il avait que 36 réceptions l'année passée pour un peu moins de 300 yards, c'était pas mal. Hein. Je pense que ça peut encore monter et puis il peut être. Je pense qu'il peut être offensive player of the year, joueur offensif de l'année.
Ah ouais.
Ouais.
Ah ouais, donc là on est en. Oui, comme tu l'as dit, ça on part sur des grosses stats quoi.
Todd Gurley 2017, je pense.
Ah ouais, parce que là joueur offensif de l'année, solide.
Je rappelle que okay. Les Patriots, on a préféré drafter Sonny Michel que lui. Déjà qu'on a drafté un running back au premier tour, on n'a même pas pris le bon de la fac. Mais bon.
On sent le. Bon, parlant de running back, j'avais envie de mettre Clyde Edwards-Helaire, ah, oui. Qui va tout exploser cette saison. Est-ce que le troll est trop
Tu peux, parce que franchement.
Ce qu'on a vu du premier match, alors on va pas surréagir, mais de ce qu'on a vu du premier match.
Cette attaque est quand même. C'est horrible, franchement.
Mais moi, j'avais envie de mettre Mecole Hardman dans le jour qui va tout exploser.
Ouais, ouais.
Parce que je pense que, de toute façon, les défenses vont devoir, il y a un moment où tu vas devoir faire des choix. Je pense que Tyreek Hill, Travis Kelce vont être ses choix. Clyde Edwards-Helaire va l'être au fil de la saison. Je pense que ça va donner à Hardman et à Sammy Watkins des boulevards pas possibles. Mm. Bah, clairement, je pense qu'on est, je pense pas que c'est pas le choix le plus bas. Oui, le mec avec Mahomes, il va exploser. Oui, mais je pense clairement qu'il y a moyen qu'il explose parce que il va avoir des boulevards. On l'a vu, l'attaque reste toujours aussi explosive, toujours aussi incroyable.
Puis si Robinson n'attrape pas de ballon, il va être benché et Hardman aura les tracés à la place.
Et alors moi, j'avais un problème avec ça, comme on en parlait avant d'enregistrer, c'est que souvent tu regardes ces listes de joueurs qui vont tout exploser. Typiquement, on met des joueurs de deuxième année qui, je trouve ça, oui, c'est logique, mais des fois c'est un peu limité parce que forcément, il y a eu l'acclimatation, voilà,
classique, à la NFL. Nekil Harry, tu connais tes Patriots.
C'est ça. C'est ça, donc j'ai un peu de mal. Après, on va dire que mon choix, ça va être un vrai choix de fan, mais Hollywood Brown, il a quand même joué avec une vis dans le pied l'année dernière. Il a déjà fait du gros dégât dans les défenses NFL. Il arrive plus musclé
prise
avec
de masse, ouais.
Prise de masse assez incroyable. Je pense qu'il y a des gros dégâts en surtout que on s'attend à ce que toutes les équipes balancent 8 mecs dans la boîte, etc. Je pense qu'il peut avoir des gros dégâts faits par Hollywood Brown. Donc Hollywood Brown, Mecole Hardman, on voit toujours ma fascination pour la vitesse, hein, qui reste intacte, mais tout explosé, donc on reste du côté de l'attaque, nous deux. Nick Chubb, etc. C'est vrai que c'est un peu plus... Je pense que quand un joueur explose tout défensivement, mis à part un sacker, c'est peut-être un peu moins visible.
Mmh. Ouais, je suis assez d'accord.
On peut... je pense que AJ Brown aussi du côté des Titans, si les Titans refont ce qu'ils font, il y a moyen qu'ils fassent extrêmement mal.
C'est clair.
Mais extrêmement mal. Dixième question. On en a un peu parlé dans un précédent épisode. Les bonnes affaires, les bonnes extensions. Alors, quelle extension, selon toi... Je pense qu'Alan va partir du côté d'un running back. Quelle extension, selon toi, était bien vue et va payer cette saison?
Franchement, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a énormément. De mémoire, là, tu vois, il y en a eu... J'ai l'impression qu'on a 2-3 par semaine, là, tu vois. Donc, je vais dire Tre'Davious White. Aux Bills. simple, c'est un corner. Je le vois jouer deux matchs par saison depuis 3 ans. Il est extrêmement incroyable. Fort. Extrêmement fort. Mmh. Et il le sécurise. Il est important dans la défense de McDermott. Il le sécurise pour... ils n'ont pas payé non plus prix du marché X+1, donc super, super cher. Et donc, très bonne signature. On avait parlé de Garrett, Bosa, tous ces trucs-là, Mahomes, compagnie, mais de Watson qui a signé la semaine dernière. Mais voilà, je dis très Davis White.
Je vais parler d'un joueur dont on a un peu parlé, c'est Ngakoue. Alors techniquement c'est pas une prolongation, hein. Ouais. C'est pas une prolongation, mais il a négocié son contrat, il a négocié un contrat donc avec les et c'est l'ironie du sort, c'est que il voulait tellement quitter les Jaguars que le contrat qu'il a signé avec à 12 millions avec les Vikings, je vais arrêter, il est largement en dessous.
Il a perdu 5 millions. Il a accepté de perdre 5 millions annuellement.
C'est incroyable. Enfin, pour un pass rusher qui a un peu de mal sur la saison dernière, un peu sur la saison d'avant, mais c'est un pass rusher premium à 12 millions, c'est un vol en fait. Ouais. Alors ça rentre pas tellement dans la catégorie extension. Je sors un peu de ta question, mais moi quand j'ai vu ce trade, j'ai vraiment été, je me suis dit le mec voulait partir, mais à un niveau c'est surréaliste. Et ce duo Hunter. Il avait des pass rushers dans ses premières années du côté de, il a eu Josh Griffin. Allen l'année dernière.
Ah oui.
Ouais, Everson Griffin. Il en a eu dans, ouais, je parle de, d'Ngakoue. Ouais, il avait Calais Campbell. Il avait du monde. Mais là, un vrai deux très bons edge rushers. Attention à Minnesota avec Mike Zimmer. C'est une équipe que j'avais, faut se rappeler, détruit dans un des épisodes en disant qu'il fallait tout refaire. Ouais. Ils ont fait certaines choses plutôt bien à voir. Mais je pense vraiment que Ngakoue, ça va être un des bons coups de cet été.
Ouais, il y avait Fowler aussi. Franchement, ils avaient des pass rushers de fou furieux, les Jaguars.
Ouais. Fowler qui, à l'inverse, selon moi, va être une bonne signature, vraiment. Ouais, très cher. Qui est un mec qui a toujours produit quand l'environnement était quand même ultra favorable autour de lui. Ouais, enfin... Sans être méchant, mais produire quand t'avais Aaron Donald ou quand t'avais la ligne des Jaguars...
Ouais, quand t'avais Malik Jackson, Calais Campbell, Ngakoue, franchement, cette ligne défensive-là, elle reste sale.
Ouais, donc à voir. On finit presque avec l'avant-dernière question. Les joueurs qui jouent le plus cette saison, joueurs ou équipe. Alors jouer le plus, c'est pas en termes de minutes, hein, ou de snap. C'est voilà les joueurs qui clairement sont dans un make or break year, comme aiment dire les Américains, ceux qui jouent beaucoup. Alors tu m'avais dit en off, Alan, t'as eu un peu de mal. Moi, c'est la question qui m'a le plus inspiré.
Ouais, pour être moi, je te laisse.
Alors j'avais 4-5 noms. J'ai réduit la liste à combien? À 2 noms. Alors ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai déjà voulu voir sur internet, du côté des États-Unis, voilà, les prévues NFL, qui est parmi les joueurs qui jouent le plus. Et j'ai trouvé un truc intéressant, c'est que malencontreusement, ne maîtrisant pas totalement la recherche internet, je suis tombé sur un article de 2019 d'ESPN qui listait 4 quarterbacks. Mariota, qui depuis du coup était effectivement dans une année où il jouait et tout parce qu'il a été benché, il a changé d'équipe. Winston, qui a changé d'équipe. Dalton, qui a changé d'équipe. C'était qui le quatrième? Derek Carr.
Ouais.
Donc pour moi, l'image de l'année dernière, je pense que Derek Carr est à nouveau dans une année où il joue à peu près tout. D'un point de vue contractuel, je pense pas qu'il sera coupé, mais il pourrait l'être. À la fin de la saison, il y aurait très peu de dead cap du côté des Raiders. Mm-hmm. C'est un secret de polichinelle. Je pense pas que John Gruden, c'est pas le QB dont il rêvait, le QB qu'il affectionne tant que ça. L'année dernière, l'attaque a revu un petit peu, mais ça restait, on le disait, beaucoup de personnel des tight ends à l'ancienne, compliqué. Alors là, il a Henry Ruggs, son premier tour de draft qui pourra l'aider, mais je pense clairement qu'il joue beaucoup.
Ouais.
Est-ce que il a déjà eu le sursis de l'année dernière? Parce que contrairement à Mariota, Winston, Dalton, il a pas changé d'équipe, mais pour moi, il a pas validé le ticket de franchise quarterback. Mmh.
Ouais, je suis assez d'accord. Lui, il joue pour être le futur à Las Vegas, quoi. Gruden est là pour rester. Il y a de l'argent. Mayock est arrivé. C'est ni un choix de Mayock, ni un choix de Gruden. Donc, au bout d'un moment, c'est clair que je suis assez d'accord. Ouais. Puis moi, je vais dire Drew Brees.
Ah, waouh!
Drew Brees en playoff, pas en saison régulière. Parce que la saison régulière, ça va encore très bien se passer du côté des Saints. Ça va encore... je pense qu'ils seront tête de série 1 ou 2, ils auront l'avantage du terrain. Par contre, s'il est incapable de gagner un match de playoff ou d'être, de faire une grosse perf dans un match de playoff, ce qu'il n'a pas fait pour moi depuis... Grosse perf match de playoff de Drew Brees, pour moi, la dernière... C'est peut-être le match à Minnesota, il est vraiment bon dans ce match-là, il les ramène, le match où Diggs attrape la
ouais.
Mais voilà, je dirais que j'attends Drew Brees en playoff. Pour moi, Drew Brees joue pas mal en playoff cette année. On lui a ramené Emmanuel Sanders, on a drafté un guard au premier tour.
On va payer Alvin Kamara. On va payer
Alvin Kamara, l'effectif est blindé, il a jamais été autant blindé. Donc je pense que même pas, tu sais, pour le futur, ça, on sait, voilà, Drew Brees, c'est un Hall of Famer, c'est un des 10 meilleurs quarterbacks de tous les temps, voire plus, voilà, on va pas rentrer dans les débats first take undisputed, mais il joue quelque chose, il a qu'une bague, il a été qu'une seule fois au Super Bowl, bah voilà, cette année, il fait encore une fois, il joue pour y aller, et pour moi, il joue pas mal. Parce que, on peut dire ce qu'on veut, effectif, il a pas été exceptionnel dans les matchs de playoff des Saints derrière, même s'il y a eu des erreurs d'arbitrage, tout ça, je suis d'accord, il a pas été, au niveau d'un QB légendaire.
Bah, si on part un peu de ce principe-là, je pense que si les Ravens vont en playoff, Lamar Jackson jouera beaucoup aussi.
Syndrome du « Oh, il n'est pas capable de gagner un match de playoff ».
Ouais, voilà. Donc la troisième année, il faudra vraiment... De toute façon, tu regardes les previews. Alors, on va dire que je parle que des Ravens dans cet épisode. Tu regardes les previews. Toutes les previews disent, en gros, les Ravens, ces gens ne sont pas foulés. Bon, bah, on va attendre les playoffs.
Oui, c'est ça.
OK. Deuxième joueur, selon moi, qui joue pas mal, c'est Le'Veon Bell. Le'Veon Bell, dans la deuxième année de son contrat, voilà, on a entendu parler de son contrat pendant plusieurs années pour qu'il le signe. Il l'a signé du côté des Jets. Il a pas été bon l'année dernière, à l'image des Jets, plus largement, qui ont pas été trop inspirés. J'étais tenté, honnêtement, Sam Darnold était dans ma liste. Le problème, c'est que je trouve souvent dans la liste des joueurs qui doivent jouer le plus, on met souvent des joueurs de troisième année, à l'image un peu des... Ouais. On met les deuxième années dans les progressions, on met les troisième années dans ceux qui jouent le plus, parce qu'on se dit, en gros, c'est maintenant ou jamais. Je pense que Darnold, vu l'investissement, aura toujours... ça sera plus l'année prochaine. Il y a des circonstances atténuantes, les joueurs autour de lui, bref. Parmi ces joueurs autour de lui, il y avait Le'Veon Bell. Alors, la ligne était pas bonne. Elle sera sûrement pas incroyable cette année non plus, même s'il y a l'attraction Mekhi Becton, mais j'estime que Le'Veon Bell va devoir faire plus. Il a déjà dit, il était pas au sommet l'année dernière en arrivant, il l'est cette année. Il va devoir justifier son gros contrat, il va devoir retourner au statut d'un des 5 meilleurs running backs de la NFL. Ce dont il était très loin l'année dernière. Et pour lui, le temps presse parce qu'il peut être, je regardais la structure de ce contrat, il est potentiellement, c'est un joueur qui peut être cut à la fin de cette année. Il y aurait très peu, ils auraient que 4 millions de dead cap sur les deux prochaines années et ils économiseraient plus de 20. Donc, l'addition est rapide. Hein. Clairement, je pense déjà que c'est dans les papiers de Douglas, dont j'ai oublié le prénom. Joe Douglas, merci. Le GM des Jets. Et là, c'est maintenant ou jamais. Le'Veon Bell joue beaucoup parce que s'il fait pas une bonne saison, je pense que très peu de personnes vont être enclins à aller le signer aussi après s'il est coupé.
Ou au minimum. Je suis d'accord. Ça a été le meilleur running back de la ligue pendant 3-4 ans et c'est vrai qu'il joue beaucoup. Rien à rajouter sur lui.
Eh bien, on peut terminer avec la 12e question. Qu'est-ce que ça peut être, cette 12e question? Bah forcément, notre pronostic Super Bowl, le moment où on se ridiculise. Alors, tu fais partie de quelle école, Alan? Il y a deux écoles, moi, je trouve, dans les pronostics, Super Bowl ou tout. Il y a l'école de « je joue le truc sûr », comme ça, je peux pas être ridiculisé dans 6 mois. Pattes. Je mets il y a quelques années, c'était « je mets un Patriots Packers ».
Ouais. Pas de Seahawks.
Ou alors, pas de Seahawks. Ou alors, t'es dans l'équipe de « allez, on joue, tu joues le
home run ».
Déjà, tu joues le splendide. Ouais. Tu joues la grosse cote à Vegas.
On se connaît bien tous les deux.
Trop bien.
Je crois que j'ai jamais, à part l'année dernière, pas piqué les Patriots pour aller au Super Bowl. Et puis qu'on se connaît.
Ouais, je pense.
Donc je joue la sécurité. Moi, je suis dans la sécurité. Je suis dans la sécurité. Et là, le contexte me donne envie d'être encore plus dans la sécurité. Mmh. En fait, c'est bête, hein, franchement, mais bon. Puis en plus, j'aurais été quand même été dans la sécurité. De toute façon, je suis pas.
Je crois que sécurité n'a jamais été aussi répétée dans un podcast ouais, pendant.
Un podcast de sport, c'est clair. Donc en fait, je vais mettre les Chiefs. Les Chiefs qui, voilà, je pense, sont la meilleure équipe de NFL. Même si les. J'aimerais bien voir une finale de conf contre les Ravens parce que ça a toujours été des bons matchs. Toujours perdu par les Ravens, je crois, mais toujours au couteau. Donc.
Toujours. Alors, ils ont été meilleurs toujours à Kansas City aussi.
C'est vrai, c'est vrai. Là, à voir l'impact du public et tout ça, quoi, ça peut jouer. Donc les Chiefs qui vont au Super Bowl défendre leur titre de l'an passé, et là c'est un peu la grosse cote, je vais dire les Seahawks en face.
Ah ouais, la croyance en... On n'en a pas trop parlé ça, mais notre affrontement de base dans notre vision de la NFL, c'est que je critique souvent Alan pour être trop QB-centré, ouais. Et je pense que là, le choix Seahawks, c'est le choix Russell Wilson.
C'est le choix Russell Wilson en mission, c'est le choix aussi des 49ers... moins qui seront je pense moins bons que l'an passé, moins sur un nuage que l'an passé, les Saints, je pense que les Seahawks peuvent aller gagner au Superdome en playoff. Russell Wilson, un joueur de stack à David, là c'est juste la hype Jamal Adams au training camp est grande, la hype DK Metcalf de mon côté est grande. Et puis après, voilà, Cowboys, Packers, potentiellement Buccaneers, voilà. Donc, je vais aller avec le meilleur joueur de la conférence, en fait. Et c'est les Seahawks. Et j'espère que Pete Carroll, Schottenheimer, le coordinateur offensif, vont un peu lui donner le ballon et arrêter d'attendre le dernier quart-temps pour lui donner le ballon. Parce que si le playbook est un petit peu plus diversifié l'an passé, ils battent les Packers au match de division. Et je pense qu'ils auraient pas, ils auraient pas été ridicules contre les 49ers après, en finale de conf, contrairement aux amis jaunes et verts. Donc, mon pick, c'est Chiefs-Seahawks.
Chiefs-Seahawks. Avant de répondre de mon côté, est-ce que tu sais l'équipe sur laquelle on place le plus d'argent pour le Super Bowl?
Les Chiefs.
Non.
Non, me dis pas, c'est les Buccaneers.
Je te jure que si. Je te jure que si.
C'est exceptionnel.
C'est une équipe sur... Alors, c'est pas l'équipe qui a la meilleure cote, mais c'est l'équipe sur laquelle les gens placent le plus d'argent.
Ok.
Si, les Buccaneers. Non, au niveau des cotes, on est sur quelque chose de... Un peu comme on l'avait dit dans nos épisodes, il y a un quatuor qui se dégage, avec les Chiefs quand même largement au-dessus. Chiefs, Ravens, 49ers, Saints, selon l'ordre, c'est un peu différent.
Okay.
De mon côté, je vais prendre Chiefs aussi. J'aurais une question annexe à te poser après sur les Chiefs, mais ouais, je prends les Chiefs, Mahomes, enfin Andy Reid avec une bague maintenant, libéré, délivré, il se mentira plus jamais.
Avec
bref,
sa visière.
Avec sa visière et un peu de buée, un problème. Chiefs, alors que je suis supporter des Ravens et qu'ils sont pas loin derrière, enfin non, pas loin, qu'on les dit pas loin derrière, je trouve qu'il y a quand même un vrai écart. De l'autre côté, je trouve que l'attraction, c'est la NFC cette année, où il y a une vraie question qui se pose. Je fais pas, ça s'entend, on n'est pas les plus gros fans des 49ers, je pense que ça s'entend.
On attend une confirmation, quoi. Ils sont passés de 12 à 12-4. Moi, j'attends.
C'est ça. Je les vois quand même en playoff, hein.
Oui, oui, pareil.
Les Seahawks, j'ai peur dans le coaching staff. Je trouve que l'effectif est pas le plus talentueux, non, quand même. Alors, certes, on a ramené Jamal Adams, mais ça reste... Je vais pas faire du tout, mais alors pas du tout dans la génale, mais je vais donner un Chiefs-Saints avec une victoire des Chiefs.
Okay.
Parce que, dans une année avec tellement d'incertitudes, je vois pas un phénomène tel que les 49ers de l'année dernière se répéter. Donc je donne je ne donne pas justement les 49ers, je donne un Saints Chiefs. Alan, la vraie question que je voulais te poser, c'est, il n'y a pas cette notion en français, mais les Américains, ils ont cette notion du field. Donc en gros, toutes les restes,
ouais,
en gros, les Chiefs contre le field, c'est-à-dire les Chiefs contre le reste des équipes NFL. En gros, si tu devais parier aujourd'hui, on enregistre le 12 septembre, est-ce que tu mettrais ton argent sur les Chiefs ou sur toutes les autres équipes NFL réunies?
Non, toutes les autres équipes.
Tu sais que moi, je me pose honnêtement la question.
C'est flippant.
Je me pose vraiment, vraiment la question.
Ouais.
J'ai pas réussi à la trouver, la stat. Je l'ai cherché, mais j'ai peut-être pas assez d'expertise dans les paris de Las Vegas. Parce que je sais que ce pari existe à Las Vegas. Donc, j'ai pas réussi à le trouver. Mais déjà, c'est les plus gros favoris depuis 15 ans, en termes de cote pour refaire le doublé.
Faire le doublé, ouais. Ouais, ouais.
Honnêtement, bah, je suis pas loin. Selon toi, ça se réfléchit même pas ou il y a une hésitation?
Si, ça se réfléchit. Ça se réfléchit. Tellement ils sont forts, tellement l'effectif a, en fait, assez peu changé. Ils ont gardé ce qu'ils devaient garder. Ils se sont améliorés sur certains points aussi. Ils sont pas énormément touchés par les absents du Covid. Il y a que Duvernay Tardif de starter qui n'est pas là. Donc, ça se réfléchit, mais je me dis toujours, c'est la NFL, une blessure, une... Mais ça s'est jamais autant réfléchi, je trouve. Même, tu vois, Patriots en sortie de Super Bowl 2014 ou 2016, je t'aurais dit non, joue le terrain, joue le field.
Parce que là, mis à part Mahomes, c'est quelles blessures qui les font décrocher complètement? Chris Jones?
Hill. Même s'ils ont Hardman, ils changent quand même beaucoup de choses.
Mmh, ouais, c'est vrai.
Chris Jones blessé, ça est c'est très embêtant.
Ah, très très. Bah, c'est leur meilleur défenseur blessé, ouais, c'est.
Chris Jones ou Tyrann Mathieu, ils ont deux très bons défenseurs dans cette équipe, en vrai. Ils en ont deux très très bons. Ils ont des bons défenseurs aussi, mais les deux très bons, deux élites pro bowlers, ça, c'est Jones et Mathieu. Si un des deux est blessé, c'est problématique aussi.
Et alors, une autre question, celle-ci, je te l'avais pas préparée du tout. Alors, t'as dit que tu jouais à la sécurité. Maintenant, le Super Bowl que tu oses pas dire dans le podcast, mais auquel tu penses vraiment. C'est-à-dire, par exemple, moi, si j'écarte les deux équipes que j'ai données, si j'écarte les Chiefs et les Saints, ce Super Bowl que j'ose pas donner, mais auquel je pense un peu, c'est par exemple mettre les Ravens, qui selon moi sont quand même les deuxièmes derrière. Ravens. Et là, c'est là où ça devient compliqué en NFC, parce que trouver une équipe qui en NFC est pas favorite, mais a quand même des chances.
Bah, moi, c'est Ravens Buccaneers.
Ouais. Est-ce que ce serait pas les Buccaneers?
C'est ce genre d'affrontement de génération. De passage de témoin.
Ah ouais, ça serait beau si ça se finit par une victoire des Ravens. Est-ce que le Super Bowl surprise, ça serait pas un remake, un Ravens 49ers? C'est-à-dire la surprise, c'est les 49ers qui y retournent.
Ouais, qui y retournent, qui prouvent que voilà, ils bassent fort en NFC, capable de regagner plus de 11 matchs par exemple, et qui regagne des matchs de playoff aussi, parce qu'ils avaient gagné deux matchs de playoff à domicile avec Garoppolo qui lance 5 balles par match. Donc y a ça aussi, tu vois. Donc ouais, ça serait, je suis d'accord. Si les 49ers y retournent, là je me dis ok, ils se sont installés pour quelques temps encore.
Ok, ce qui prouve à travers nos dires qu'en gros il y a 5 équipes pour le titre cette année. Le titre, c'est Kansas City, Baltimore, San Francisco, la Nouvelle-Orléans et Tampa Bay. Donc en gros, sans nous faire des fleurs, ce qu'on avait dit il y a... Alors c'est toujours nous, c'est les mêmes personnes qui le disent, c'est nous en l'occurrence.
Puis il n'y a toujours pas une match.
Il n'y a toujours pas une match, c'est vrai, mais en gros, il y a vraiment un quatuor qui se dégage avec cette énigme, cette hype Tampa Bay.
Et moi qui crois
aussi. Oui, les Sioux. Ok. C'est personnel. Et ben, c'est sur cela qu'on va conclure cet épisode numéro 8 du podcast Le Safety. Ça fait du bien d'être de retour et vous allez nous entendre pas mal cette saison sur des. Là, on a été un peu dans une foire aux questions. On va peut-être être un peu plus dans l'analyse la prochaine fois. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et surtout sur les plateformes où vous écoutez le podcast. J'aurais dû le dire en début d'émission, mais il y a eu un petit changement au niveau de tout ce qui est flux vis-à-vis du podcast Le Safety. Donc, j'espère que vous avez pu le trouver sur votre appli comme d'habitude. Il y a peut-être eu un petit problème sur le podcast précédent. Je ne sais pas si tous les auditeurs ont pu écouter le numéro 7. J'espère que oui. Alan, on se met dans les starting blocks. On se prépare pour l'habituel Red Zone et Scott Hanson qui m'avait manqué comme personne. Et ah oui, c'est le mec le plus man. Incroyable, l'homme capable de retenir sa vessie plus de 7 heures, quand même incroyable. Et puis on se retrouve dans 2 ou 3 semaines, probablement 2, pour discuter des premières conséquences de nos premières observations sur cette saison NFL. Donc d'ici là, même si ça a vraiment dans les faits commencé avec ce Kansas City Houston, on vous souhaite une très bonne saison NFL 2020 et on se retrouve très vite. Salut.